Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
À Montpellier bien renommé, tout en entrant dans la ville, j'entends les compagnons chanter. Tout en entrant dans la ville, j'entends les compagnons chanter. Viens le bonjour tailleur de pierre, et vous le maître de chantier. N'auriez-vous pas ouvrage à faire pour un compagnon?
Salut à tous, c'est Vacarme en réunion. Salut Marius.
Salut Jeannette, ça va?
Eh oui, très bien.
Bon, super.
Alors cette chanson moyenâgeuse, elle nous dit « En entrant dans la ville, j'entends les compagnons chanter ».
Ouais, tout à fait.
Et hier, en entrant dans la ville, on entendait les compagnons chanter, si bien que, par un hasard improbable, cette chanson était tout à fait appropriée pour commencer cette émission.
Ouais, tout à fait.
Donc ce qu'on entend, c'est un enregistrement d'un concert qu'il y a eu sur les Lentillères hier soir. Parce que tout le week-end, c'était la fête sur les Lentillères.
C'était ouais, un moment d'apparition des Lentillères dans la ville et voilà, dans l'espace public, comme on pourrait le dire.
C'était un moment un peu particulier, parce que hier il y a eu une manifestation du quartier des Lentillères sur Dijon.
Ouais, voilà, qui a traversé la ville, une partie de la ville.
Et qui était assortie d'une grande fête sur le quartier hier soir, où il y avait du théâtre, des concerts, plein de choses.
Voilà.
Et cette manifestation, elle avait prévu de partir de la place de la Libération à 14h. Et il s'est passé un truc un peu bizarre pour Dijon, parce qu'en général, il n'y a jamais trop de problèmes à ce que les manifestations du quartier se déploient un peu comme ça dans la ville. Et hier, le centre-ville a été complètement bloqué par les flics, si bien que le point de départ de la manifestation a jamais pu être atteint en fait par les gens qui venaient du quartier, quoi, qui étaient avec des tracteurs, des remorques, avec tout un attirail un peu fou. Les flics ont jamais laissé les gens accéder à la place de la Libre.
Ouais, effectivement, c'est une chose assez étrange, qui d'habitude n'arrive pas à Dijon, et qui là, je crois, a donné une tonalité un peu particulière à toute cette manifestation, c'est ça?
Ouais, c'était un peu étonnant, quoi, parce que tout le monde, je crois, sur le quartier s'attendait à ce que ce soit un moment festif d'apparition dans la ville pour venir aussi un peu marquer toutes les victoires de ces derniers mois, parce qu'il y a quand même des maisons qui ont été prises récemment sur les Lentillères, et puis il y a la municipalité qui a affirmé qu'ils toucheraient pas au quartier que jusqu'à 2018, etc. Du coup, c'était pas du tout un moment tendu en fait sur le quartier. Du coup, tout le monde s'attendait, je crois, à ce que ça se passe très bien.
De manière familiale et festive.
Ouais, voilà. Et du coup, bah voilà, on peut encore voir l'espèce de d'hypocrisie évidente du pouvoir, quoi, sous toutes ses formes. Rebsamen qui affirme il y a un mois que toutes les différences doivent s'exprimer dans la ville, que c'est très bien en fait que ce qui se passe sur les Lentillères. Et puis voilà, quand les gens doivent apparaître au centre-ville,
c'est la panique, quoi.
Ouais, ils sont c'est complètement quadrillé, les gens se sont fait gazer, les flics étaient vraiment assez hostiles, avec des comportements assez étranges, et une journaliste qui s'est fait gazer, non,
c'est toi qui... Ouais, une nouvelle fois, voilà, c'est donc les forces de l'ordre qui réitèrent. Il y a deux semaines, c'était un caméraman de France 3 qui se fait gazé par les vigiles d'une société dijonnaise privée, et là voilà, c'est donc une autre forme d'autorité qui gaze une journaliste du bien public, je crois. Donc bah voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle que les journalistes se fassent aussi attaquer finalement.
Ouais, se fassent aussi attaquer.
Aussi attaquer, bien sûr. On vous met en fond là un des morceaux que jouait un groupe hier soir, un brass band de Bruxelles. Voilà, c'est histoire de vous donner un peu la tonalité de... Évidemment, la manifestation était quelque peu pas hyper agréable de par la tonalité donnée par la police, mais on s'est pas mal rattrapé évidemment le soir. C'était finalement assez joyeux comme moment.
Non, mais je pense que même en fait durant la manifestation, malgré cette surprésence des flics, etc., il y avait quand même un truc un peu chouette entre les gens. Il y avait beaucoup de gens. C'était c'est toujours des formes d'apparition dans la rue. qui sont assez belles, quoi. Et, je sais pas, et, pour tous ceux qui sont qui ont l'image des manifestations comme le vieux truc syndical où c'est la seule forme d'apparition possible aujourd'hui dans la rue pour faire une manifestation, c'est un truc très ordonné, très syndical, etc. Là, il y a quand même une manière d'être ensemble dans la rue qui n'a rien à voir avec ça et qui, du coup, malgré cette présence policière, malgré le fait que du coup, les gens étaient un peu énervés et tristes, quoi, de la manière dont ça se passait, il y a quand même une manière de chanter, d'être ensemble, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler une manifestation, quoi.
Ouais, tout à fait. Puis en plus, il y avait la forme de la manifestation aussi était un peu, enfin en tout cas, ne ressemblait pas à une manifestation de syndicalistes. Dans le sens où effectivement, il y avait un camion plateau, des chars, enfin il y avait comment dire une forme un peu assez joyeuse aussi donnée à cette manifestation. Notamment un concert qui était fait sur un espèce de camion plateau. Et je crois que des échos que j'en ai eu, les gens ont trouvé ça assez fou le rapport entre ce groupe qui jouait de la musique assez comment dire du matrock, quoi, quelque chose d'assez percussif, la nappe de flics qui était autour de ce camion. Enfin, je crois que voilà, on n'a pas vraiment discuté avec les musiciens qui jouaient à ce moment-là sur le camion, mais j'imagine que c'était un moment d'une intensité et d'une texture un peu particulière. Voilà. Et donc, évidemment, il y a eu cette fête hier soir avec du théâtre, enfin, comme tu vois, des concerts qui a duré jusqu'à tôt ce matin. Voilà. C'est toujours des moments assez agréables, en fait, qui lient pas mal de choses. Évidemment, des rencontres entre tout un tas de personnes, et des Dijonnais, et des personnes d'ailleurs, et des Dijonnaises, et des gens qui cultivent des légumes, et des gens qui connaissent pas, et des...
Et du coup, pour l'émission d'aujourd'hui, on avait envie de creuser un petit peu cette histoire des lentillères. Ce qu'on a peu fait jusque-là, on a beaucoup parlé de ce qui s'y passe, mais assez peu de comment la lutte là-bas s'inscrit aussi dans certaines luttes contre les politiques de la ville, contre un certain urbanisme. Et du coup, on a rencontré Yannick, qui est sur le quartier, qui participe, quoi, et qui lutte sur le quartier depuis 5 ans, depuis ses débuts, en fait, depuis les premiers moments où il y a eu des ensemencements là-bas. Et qui est par ailleurs sociologue et qui du coup a pas mal creusé ces questions de croissance urbaine, de politique de la ville, de rapport à l'architecture, à l'espace. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur la spatialisation, quoi, le rapport des gens à l'espace, à la mobilité, à l'ancrage, etc. On va vous laisser écouter ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la rencontrer parce que ça remet quand même ce qui se passe là-bas dans un tissage beaucoup plus large de lutte. Et voilà.
On peut partir de Dijon, puis après on élargit. Mmh. Dijon, ville de 150 000 habitants, qui rêve d'accéder au Graal de 300 000 habitants. Pourquoi ? Parce que ça donne un statut de grande agglomération, de métropole. On en est loin, mais enfin. Le choix qui est fait en termes d'aménagement du territoire, c'est de s'appuyer sur des grandes métropoles vers lesquelles on va injecter des ressources. Ça va être les points qui vont capter toutes les ressources de l'État et qui auront aussi pas mal de pouvoir, quoi, en fait, en termes d'aménagement et de politique locale. Depuis, en fait, la décentralisation, on est passé d'un État, donc en France, assez centralisateur, où les communes avaient peu de pouvoir, à différentes phases de décentralisation à partir des années 80. Et ça a favorisé, on va dire, localement, potentiellement, la mise en place de baronnies, comme on dit, avec des élus qui sont assez jaloux de leurs prérogatives, de leurs compétences et qui finalement sont quelque part en concurrence les uns vis-à-vis des autres avec les maîtres mots de attractivité du territoire, croissance, etc. Et qui vont chacun développer des politiques qui visent à attirer les jeunes, les cadres sup, les entreprises innovantes, etc., etc. Donc finalement, chacun fait à peu près la même chose. Donc partout dans les villes moyennes, on va retrouver le tramway, le zénith, les mêmes aménagements, les mêmes types d'urbanisme. Ça, c'est assez classique, hein. La mise en concurrence, elle favorise l'homogénéisation, hein, finalement. Chacun cherche à attirer de la même façon, quoi. Et du coup, ça génère d'une part quand même du gaspillage d'argent public et aussi surtout de terres agricoles, parce que on va tomber sur les zones d'aménagement, chacun veut son grand projet, chacun veut développer ses zones industrielles, etc. Et puis aussi, ça se fait au détriment des petites villes et de la campagne, donc qui devient soit une zone de déversoir pour des activités polluantes qu'on ne veut plus dans les grandes villes, soit une zone résidentielle ou dortoir, soit un poumon vert, parce qu'il faut quand même que les urbains ils puissent de temps en temps aller s'oxygéner, quoi. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'équilibre ville-campagne, il y a vraiment la campagne comme support de certaines activités au service de la ville, quoi, dans ce genre d'aménagement-là. Et je parlais de ça parce que ça nous ramène à... Donc ça, c'est le cadre un peu général, hein, de l'évolution des politiques d'aménagement. Alors ça vient pas de nulle part, hein, c'est l'idée que avec l'Europe, on est en concurrence, il faut des grandes régions, il faut des grandes métropoles pour pouvoir capter les étudiants étrangers, les cadres sup, etc. Et qu'il y a une espèce de séduction vis-à-vis de modèles qui viennent d'ailleurs. Donc on a toujours l'impression qu'on a trop de communes, par exemple, qu'il faudrait des plus grandes villes et puis en finir avec ces 36 000 communes, que nos régions sont pas assez grandes. Enfin, il y a une espèce d'idéologie de la grande taille, quoi, qui serait en soi quelque chose de bien. Et donc on s'aligne sur un modèle soi-disant européen qui d'ailleurs n'existe pas, puisque d'autres pays, comme, y compris l'Allemagne, ont des toutes petites régions, enfin des tout petits landers, enfin voilà. Mais ça va bien dans le discours néolibéral de mise en concurrence, de libéralisation, de start-up, enfin d'économie numérique, etc. Et puis voilà, ça, je pense qu'il y a un certain nombre de grands élus qui tiennent aussi à ce genre d'aménagement, quoi, à ce genre de modèle. Donc, on nous parle de densification aussi. Donc, à Dijon, ce qui est intéressant, c'est que le discours, c'est de dire, d'une part, il faut construire des logements pour accueillir, enfin pour loger les habitants. Évidemment, il y a une crise du logement, donc voilà, on répond à un besoin social. Ensuite, il faut densifier parce que justement, il faut économiser de l'espace agricole, donc il faut reconstruire la ville sur la ville. Mmh. Et en fait, quand on regarde les statistiques, qu'on creuse un peu sur les diagnostics territoriaux qui ont été faits, par exemple à Dijon avant la mise en place du PLU, plan local d'urbanisme. On se rend compte que l'INSEE, son diagnostic, c'était de dire ben, Dijon est une ville qui a tendanciellement, enfin qui a une tendance au vieillissement de sa population et qui va pas, enfin voilà, se développer quoi en termes démographiques. Donc on parle de Dijon ville. Hein. Et on a en face de ça des élus qui vont prendre cet argument en l'inversant en disant bon, la tendance elle est faible, elle n'est pas un développement démographique fort, donc il n'y a pas forcément un besoin de logement énorme, mais il faut qu'on l'inverse, donc il faut qu'on construise pour attirer des gens. Et les gens, on va les prendre où ? Ben, on ne va pas les prendre à Montpellier ou à Paris, hein, on va les prendre à Saulieu, dans la Nièvre, autour, quoi. On va absorber un petit peu plus la campagne pour nous, quand même, faire de Dijon la capitale de la capitale des ducs ou l'éco-capitale maintenant. Voilà. Donc, on construit à tout va des éco-quartiers en nous disant bah, il faut loger les gens. En fait, les gens, on les fait venir. Hein. Mmh. Il y a 8000 logements à peu près. Dernière statistique que j'ai regardée, c'est un petit peu moins, 7100 logements vides. On est à 8% de logements vacants à Dijon. Et la moyenne nationale, elle est à 7,8. Donc, on est un peu au-dessus de la moyenne nationale. Donc c'est ce qui était souligné aussi là dans les analyses, c'est qu'il y a une très forte croissance des logements vacants en France, et notamment dans les grandes villes, y compris à Paris, et que c'est un peu un scandale quand on voit les problèmes de logement et les gens à la rue, qu'il n'y a pas de réquisition, etc. Et en même temps, voilà, on a des élus qui font des programmes de construction à tout va, parce que sans doute ces logements sont vétustes ou sont vieux ou ne correspondent plus à voilà à ce qui est qui peut faire rêver comme un écoquartier selon les standards actuels, mais il y a quand même du coup une gabegie de, d'espace, de moyens et d'argent public, parce que ça coûte cher aussi d'aménager. Donc voilà, sur la politique de la ville en termes de logement, actuellement c'est pas du tout sur les écoquartiers qui ont été déjà construits. Quel est le taux de remplissage et de vente? On peut avoir des... Apparemment, il y a quelques questionnements qui se font jour sur la difficulté à occuper tous ces logements. Parce que malgré tout, on est à Dijon, on n'est pas à Montpellier. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait eu... que cette politique de logement, elle se soit faite... véritablement dans une vision politique de quels sont les besoins à Dijon, vers quoi on veut aller, si ce n'est que la seule vision politique, c'était il faut qu'on passe la barre des 200 000 ou des 300 000 habitants. Et du coup, on construit à tout va sans se poser la question de, effectivement, est-ce qu'il y aura des gens pour habiter ces lieux? Est-ce que on n'est pas en train de... finalement gâcher une partie des espaces de respiration qui restaient encore sur cette ville, quoi. Et donc les lentillères en font partie, et sur les lentillères il y a quand même 1500 logements qui sont prévus à la construction. C'est énorme. Si on prend une moyenne de 3 habitants ou 2 habitants par foyer, ce qui est faible à mon avis, on est déjà à 3000 personnes. C'est un petit bourg, quoi. La phase 1 est en construction, là, ça y est. Il y a déjà des prospectus magnifiques qui mettent en vente des logements. Et la phase 2 n'aura pas lieu, j'espère. Mais elle n'est pas en construction. Enfin, elle est prévue pour dans quelques années encore. On a quelques années devant nous, parce que tout simplement la phase 1, elle va quand même prendre du temps à être réalisée, finalisée et puis vendue. Donc du coup, on peut s'imaginer que dans cet intervalle, on puisse renforcer l'expérience et puis faire comprendre l'intérêt de maintenir ce lieu qui répond à des vraies aspirations. Qui est une expérience assez unique à Dijon et qui ne comprenait pas la possibilité des Dijonais à se loger, quoi. C'est pas vrai, ça. Il y a de la place, quoi. Et l'argument de dire il faut construire pour rabaisser les prix, c'est fallacieux, quoi. Parce que, un, il y a des logements vides, et deux, il y a d'autres leviers pour maintenir des prix faibles que ceux de la construction à tout va, quoi.
Oh,
truc d'éco-quartier ? T'as travaillé un peu ou tu t'en sais un peu plus
Alors, sur les éco-quartiers, ouais, j'ai un peu regardé. Alors déjà, précisons que l'éco-cité Jardin des Maraîchers, qui est donc prévue en lieu et place des Lentillères, là, du quartier des Lentillères, n'aura pas le label éco-quartier, qui est un label un peu mou. Il n'y a pas vraiment de cahier, enfin, le cahier des charges est assez lâche. Et pour avoir travaillé sur pendant l'enquête publique sur le dossier un peu technique quoi, de la chose, il y avait un tas de questions, même je dirais d'évacuation des eaux, de choses vraiment on va dire environnementales quoi, hein, pour le coup, qui étaient vraiment pas claires quoi, qui risquent de poser des problèmes. Après, par exemple sur cet éco-quartier, il n'y a pas de réflexion pour l'instant sur les transports. Enfin, donc ça sera ce qui a été imaginé par l'architecte. Alors ils ont beaucoup d'imagination, je pense qu'ils ne font pas des longues études pour rien ces gens-là. C'était la voiture apaisée. Alors le concept de voiture apaisée, c'est-à-dire il y a des bagnoles comme partout, mais elles seront apaisées, c'est-à-dire qu'elles rouleront moins vite, etc., etc.
Nous allons rencontrer Thierry Coursin, le directeur général de la SPLAD, la Société publique locale d'aménagement de l'agglomération dijonnaise. Il s'agit d'une entreprise dont les actionnaires sont publics et qui peut être choisie par ces derniers pour des opérations d'aménagement et de construction sur des sites que la collectivité met à sa disposition. Monsieur Coursin commence par nous donner sa vision de l'écoquartier qui est dual.
Les écoquartiers procèdent d'abord d'une approche philosophique de la vie, une philosophie urbaine de la vie. Ça, c'est la partie romantique des écoquartiers. Les écoquartiers sont quand même aussi, il faut le dire, hein, clairement, issus d'une réflexion très industrielle.
En effet, il existe de nombreuses normes et réglementations sur la construction des écoquartiers, afin qu'ils soient reconnus comme tels.
Vous allez avoir aussi des gens qui privilégient la technique à l'humain. C'est-à-dire que l'immeuble n'est pas adapté à l'humain, mais à la technique d'environnement durable.
La SPLAD a fait le choix audacieux de commencer par construire les espaces publics avant les logements.
Dans une ville, quelle qu'elle soit, inévitablement, vous regardez d'abord ce qu'elle vous offre. La première chose que vous voyez, c'est les espaces publics.
Le budget du quartier de l'Arsenal s'élève à 46 millions d'euros. Mais selon la SPLAD, cet investissement suscitera des retombées économiques locales et profitera à tous. Les écoquartiers permettent ainsi, selon M. Coursin, une évolution de l'humain dans l'urbain, un dialogue environnemental, tout en reposant sur un modèle économique viable.
Après, l'autre chose de ces écoquartiers, c'est j'ai l'impression que chaque époque au niveau architectural, enfin urbanistique, elle produit ces espèces de mythes, d'idéologie. Bon, il y a eu le Corbusier à un moment donné. Bon, on voit ce que ça a fait. Aujourd'hui, c'est l'écoquartier. Alors, c'est pensé par un architecte. Il peut être très bon dans son domaine, mais qui en général, malheureusement, s'entoure très peu de citoyens, quoi, et de concertation. Il y a quand même chez les architectes, c'est ça le problème, hein, une impression un peu démiurgique, quoi, qu'ils sont capables de créer la cité, de créer la ville, en pensant pour les autres, voilà, sans prendre le temps de consulter, de concerter les autres, quoi. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire finalement, cet écoquartier, c'est vraiment, je ne vois pas ce qu'il a de différent d'un grand ensemble qui aurait pu être pensé dans les années 60, sauf qu'il est pensé dans les années 2010 et qu'on a un peu fait bouger les lignes au niveau esthétique. C'est une espèce de façon de construire ex nihilo, c'est ça en fait. Un ensemble qui se veut cohérent est pensé par une personne ou une équipe, on va dire, une équipe. Un, je vois pas ce que ça... C'est antidémocratique, quelque part. Et deux, en plus, voilà, là, pour le coup, sur l'écoquartier, Michelin, qui est l'architecte, donc, s'était targué dans les médias de toujours essayer de prendre en compte l'esprit des lieux. Et s'il n'y a rien de plus contraire que l'écoquartier, il fait table rase, quoi. C'est tabula rasa. On repart à zéro sur de bonnes bases. Les bonnes bases en 2015, dans 30 ans, je ne sais pas comment on les regardera, mais à mon avis, on va rigoler, quoi. ou pleurer, quoi. Mmh. Le fond, même si on a verdi un petit peu l'aspect urbanisme, et c'est un verdissement comme la croissance verte, hein, le fond, il est toujours le même. C'est-à-dire, on construit la ville sans ses habitants, d'une part. On brasse beaucoup d'argent et on ne donne pas lieu à l'imagination des habitants. On part de concepts qui sont appris dans les écoles d'architecture, qui sont répliqués à l'envi dans toutes les villes, avec des petites nuances pour faire croire qu'on s'adapte au lieu. C'est comme le reste, finalement, de l'urbanisme aujourd'hui. On voit bien les places végétalisées, c'est les mêmes partout, quoi. Mmh. La place de la Libération à Dijon, avec ses jets d'eau et pas un seul arbre. Enfin, j'ai dit végétalisé, c'est minéral, pardon. On peut le retrouver partout, c'est une espèce de mode. Et donc, du coup, on a quelques architectes en France qui vont penser les lieux partout, dans toutes les villes, et finalement, standardiser un petit peu les choses, et dans une orientation très, très précise. Voilà, au niveau de la surveillance, prévention situationnelle, les écoquartiers, c'est pareil. Encore une fois, si on avait l'image, c'est complètement aseptisé, ça fait froid dans le dos parce que vraiment on sent que on pense les choses à la place des gens, quoi. On les inscrit même sur le dessin, quoi, hein, en 3D, c'est facile. Alors on met un couple, on met des enfants et on donne l'impression qu'on peut créer la ville et puis même ses habitants. Parce qu'effectivement, on va créer les pratiques possibles, les pratiques non voulues, les interdits, etc., avec plein de petites choses bien résidentialisées. Donc il faut bien séparer la rue de ses ensembles, etc., etc.
On voit très bien comment le concept d'espace vert, c'est qui des fois désigne juste 4 mètres carrés en bas d'un immeuble, mais c'est l'espace vert de l'immeuble, quoi. C'est la nouvelle manière de valoriser un truc qui existait déjà, qui était juste un espace vide et qui du coup laissait aussi la place aux usages incontrôlés, quoi, de ses habitants. Du coup, ça veut dire les gens de l'immeuble qui zonent à cet endroit-là, qui se posent, qui prennent leur chien. Et comment on transforme les espèces de marges incontrôlées, quoi, surveillées. On a un concept, quoi. Maintenant, c'est un espace vert. Du coup, ça veut dire il y a personne qui s'y pose. Il y a pas de crotte de chien. Il y a rien. On n'y fait pas un barbecue parce que on lui a donné une fonction, quoi. C'est celle d'espace vert, quoi.
Oui, c'est la prévention situationnelle, c'est-à-dire par les formes urbanistiques, l'agencement des lieux, la rue, l'intérieur, etc. On va orienter les pratiques. Hein. Et ça, c'est quelque part dans la pratique de l'architecte, il y a une tendance potentiellement, je ne dis pas toujours, mais potentiellement totalitaire. Quoi. C'est-à-dire, je pense que oui, cette impression de pouvoir donner lieu à la vie des gens, quoi.
Construire à nous-mêmes sur les ruines de tes illusions, et puis on prendra en main quoi donc l'habitat urbain. Je sais, ça me fait pas marrer, je pourrais pas m'en empêcher, maman. Quand je serai grand, je pourrais pas être client. Mais alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster.
Et donc, cet architecte Michelin, là, à aucun moment donné, il est venu à la rencontre des habitants. Il n'y a eu aucune consultation, quoi.
Mais il y a des trucs de débat public.
Alors, un truc comme ça, hein. En France, je pense que dans d'autres pays, on peut dire ça, c'est un peu plus démocratique. Mais en France, particulièrement, on n'a pas du tout la culture de la concertation ou de la participation citoyenne. Parce que pour des raisons historiques, parce qu'on a eu un État jacobin, un père présent qui prenait en charge finalement la vie des gens, et on s'est méfié très peu des contre-pouvoirs. La loi 1901, ça a été une conquête malgré tout. De pouvoir s'organiser, hein, parce que depuis la Révolution française, il y avait l'État et le citoyen, hein, il n'y avait rien entre. Ça reste dans les esprits, et les élus locaux vont avoir d'autant plus l'impression que les habitants, leurs concitoyens sont potentiellement des enquiquineurs, pour ne pas dire autre chose, et des contre-pouvoirs dangereux, qu'ils sont proches, ils sont encore plus proches de la population, sans être vraiment proches, parce qu'on ne voit pas souvent le maire de Dijon quand même. Et d'autant plus qu'ils sont engagés dans cette course à la compétitivité, l'attractivité. Et du coup, il ne faudrait pas quand même que ces associations, ces habitants lambda nous mettent des bâtons dans les roues. Ils ne comprennent pas bien, on leur expliquera, mais enfin, on fait ça pour leur bien, quoi. Donc, et du coup, la loi sur l'urbanisme oblige à mettre en place des enquêtes publiques quand il y a des grands projets. Mais en fait, la conception à la française de ces enquêtes publiques, c'est pas la participation, c'est même pas la concertation, c'est la consultation, une fois que les choses sont déjà suffisamment bouclées. Et c'est ce qu'on a vécu, nous, c'est-à-dire que le PLU a été révisé, l'enquête publique a été ouverte, il y a un commissaire enquêteur qui a été nommé, donc ça, il faut le savoir que les commissaires enquêteurs, c'est des fonctionnaires à la retraite en général qui ont eu des hautes fonctions et qui sont pas toujours très ouverts, qui sont payés très très cher en plus de leur retraite et qui sont absolument, ils font ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire, s'ils veulent faire vraiment participer les gens, ils ont le pouvoir quand même de le faire, mais s'ils veulent pas, on n'a pas, nous, de contre-pouvoir. C'est ce qui est arrivé pendant l'enquête publique de l'éco-cité, là. Et les jeux étaient complètement faits. C'est-à-dire qu'on pouvait bien s'exprimer, on pouvait bien laisser des écrits sur le registre. Rien n'était pris en compte. Et pourtant, on est un certain nombre de militants à avoir vraiment bossé sur des dossiers, à avoir pris le cahier technique, à avoir décortiqué tout ça, tous les enjeux, etc., avec les lois sur l'eau, etc., derrière, rien n'a été pris en compte, quoi. Donc c'est vraiment une consultation qui est une parade, quoi, qui est vraiment la poudre aux yeux. Puis après, on a eu une réunion de quartier, mais alors là, c'est pareil, c'était avec les élus et puis les représentants de l'architecte, il n'était même pas là, qui sont venus nous présenter leur projet. Mais alors, c'était, voilà, on vous présente le projet, on attend vos applaudissements, mais c'est, de toute façon, voilà, c'est, il est bouclé, il est comme ça. Est-ce que vous avez des questions, quoi? Mais bon, tout juste, hein, quoi. Donc, aucune consultation, aucune concertation, ça, c'est clair. C'est ce qui a souvent reproché... Enfin, il y a quand même des débats dans la, on va dire, dans la littérature, enfin, entre sociologues, etc. Il y a des sociologues urbains qui travaillent sur ces questions-là, et c'est quelque chose qui est souvent mis en avant, quoi. Que actuellement, l'urbanisme participatif en France, il est inexistant, quoi. Et en ça, le quartier de l'Antillère est aussi un exemple, parce que là, pour le coup, voilà, on a refait un quartier. Avec ses habitants, ses usagers, quoi. Sans architecte et sans demande de subvention. Mais on pourrait même peut-être demander des subventions, on n'en est pas là, mais bon. On tient notre indépendance, je pense.
Toi, t'opposes ça, cette manière-là d'habiter, quoi. Ce qu'on disait avant, des trucs un peu ex nihilo, quoi. Enfin, bah, tu vois, oui. dans un ouais. monde où on peut caler n'importe où, n'importe qui.
Ouais, mais là, c'est, on
a une mobilité et des certains schémas qu'on reproduit à l'infini, quoi. On pourrait, c'est ça qu'on pourrait opposer à ça, quoi. C'est certaines manières d'être ancré dans des endroits.
Bien sûr, ouais. Et en fait, si on y réfléchit, c'est assez récent, quand même. Alors, peut-être pas au niveau des villes, mais au niveau des villages, tous les cœurs de villages qu'on voit, ça a pas été pensé par des architectes. Hein. C'est encore là, l'habitat participatif, il est autour de nous. Hein. Tous les cœurs de village ont été auto-construits par leurs habitants, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait de l'hyperdense, parce qu'ils ne voulaient pas s'emmerder à faire des murs à chaque fois, donc ils ont reconstruit les uns sur les autres pour limiter le nombre de murs, quoi, à faire. Et ça faisait des cœurs qui étaient vivants et qui étaient faits par leurs habitants, et pour autant, ça tient debout, me semble-t-il. Faut jamais croire que ce qu'on vit actuellement est là depuis, comme le capitalisme, hein, c'est tout récent, quoi. Donc c'est la même chose. Et là, au niveau des architectes, tu penses que c'est un aboutissement de la division du travail et de ce que Debord appelle la société du spectacle, c'est-à-dire que la vie devient un spectacle qui est pensé par d'autres.
J'ai l'impression que là, sur les lentilles, ce qui permet aussi la réappropriation totale de l'endroit, c'est le fait que comme c'est un lieu qu'on a un peu arraché quoi, au pouvoir, de fait, on n'est aussi pas soumis à toutes les réglementations habituelles, tu vois, les normes d'habitat. On est hors la loi avec les caravanes qui sont posées là, les habitations légères, etc. Quoi. Ouais. Et qu'en même temps, le fait de ne pas se poser ces questions-là, ça fait vraiment que tu as la liberté de construire les endroits dans lesquels tu veux vivre. Quoi. Avec pour celle seule prérogative, peut-être ne pas gêner les autres gens avec les
sujets. Ouais. C'est quand même le vivre ensemble. Après, ça pose d'autres questions. Enfin, je pense que on en est venu à un tel niveau de réglementation que effectivement, ça devient un peu n'importe quoi. La rue où j'habite, qui est liée à l'autoconstruction d'après-guerre par des populations assez populaire, hein. Il y a beaucoup de descendants d'immigrés, les anciens, les Italiens, des Tunisiens, etc., qui sont tous dans la maçonnerie et qui construisent leur maison, quoi. Ça serait impossible aujourd'hui, cette rue. Alors qu'elle est très viable, enfin, très vivable, mais il n'y a rien de aux normes, quoi. Il n'y a rien d'aligné, etc., en termes de construction des maisons, quoi. C'est vrai que ça pose des questions aussi dans quelle mesure la ville, avec son extension énorme, est quelque chose de viable, parce que plus tu concentres des gens, plus tu vas être obligé de penser à les déchets, les eaux usées, etc. Tu peux pas agir comme si t'étais à 2 habitants au kilomètre carré, quoi. Là, quand t'es à 3000 habitants au kilomètre carré, t'es obligé d'avoir des tuyaux, des réseaux, des trucs qui sont de l'ordre quand même un peu de la planification, quoi. T'es un peu obligé. Sinon ça devient vite invivable, quoi, et environnementalement dangereux. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il faut réfléchir à quelles limites on donne aux villes et pourquoi ces élus contre, à mon avis, contre la vie de leur population s'engagent dans cette course à l'hyperdensification et à grossir encore plus, quoi. Enfin, moi, c'est aussi un thème, la densification, qui m'intéresse. Parce qu'actuellement, tout est fait pour culpabiliser un peu les habitants et les personnes individuelles, sous couvert qu'il faut faire des économies d'espace, donc il faut densifier l'habitat. Parce que l'habitat consomme 30% des espaces qui sont artificialisés. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les zones industrielles, commerciales, en consomment aussi plus de 30%. Donc, en gros, on demande aux habitants de s'entasser, mais les boîtes de conserve, on ne leur demande pas de s'entasser. Et moi, j'estime qu'avant d'entasser les habitants, il faudrait commencer par entasser les boîtes de conserve, les parkings, etc. On tourne tout du côté de l'habitat. Et ça, c'est, à mon avis, pas... Voilà, on ne veut pas toucher aux acteurs économiques. Donc, il y aurait aussi beaucoup à faire de ce côté-là. Et on saute de coq à l'âne, mais pour revenir sur le quartier des Lentillères, moi, j'y suis depuis le début. J'ai participé à l'ouverture du lieu. Et je suis assez effarée, au bon sens du terme, de voir comment ce lieu qui a été vraiment, en 5 ans, réouvert, qui était une friche, est devenu un quartier sans qu'il y ait eu besoin de planification, en tout cas pas descendante, d'autorité extérieure. C'est-à-dire que par l'autogestion, par des assemblées générales, par une auto-organisation qui s'est faite petit à petit, on a su assez bien, je trouve, gérer l'arrivée de nouvelles personnes, parce que moi je pense que on s'est super densifié, enfin on part de zéro, mais en fait en termes d'accueil de population nouvelle, c'est pas rien. Les accueillir, faire en sorte qu'ils trouvent leur place sans gêner ceux qui étaient déjà là et sans aussi remettre trop en question la nature qui avait aussi pris un peu ses droits et donc conserver des arbres, des haies, des bouts de nature. Et tout ça fonctionne quand même très très bien, quoi. Et en plus, ce qui me rassure aussi, c'est que finalement, cette auto-organisation, je la trouve très harmonieuse. Certes, c'est peut-être un goût personnel, mais quand on se balade du côté des jardins individuels, par exemple, c'est incroyable de voir comment ben, l'humain qui s'établit au sol quand il est voilà, responsabilisé et en collectif, eh ben, il va faire des cheminements, des agencements à la fois super diversifiés, parce que chaque jardin a sa personnalité, j'allais dire, et puis très finalement très harmonieux, très cohérent. Et ça, c'est un peu la magie du lieu, je trouve. C'est vraiment, enfin moi, je me dis, ben ouais, en fait, je suis en train d'observer la spatialisation du social, enfin pour prendre un terme un peu. Mais voilà comment l'humain il s'établit au sol quand il n'est pas gêné par des choses complètement rigides et finalement qui n'ont plus trop de sens, quoi. Mmh. Et ça permet beaucoup plus finalement l'expression de ce que chaque personne peut apporter, quoi. Et c'est un lieu en plus, je trouve, finalement, qui est assez par rapport au centre-ville. Si on prend la rue de la Liberté, par exemple, à Dijon, où tout est ultra codifié, où il n'y a pratiquement plus moyen de s'approprier quoi que ce soit, eh ben, c'est un lieu qui permet aux personnes, justement, d'être des humains, d'être imaginatifs, créatifs. Mais je pense que c'est pas forcément quelque chose que les aménageurs et les élus veulent, parce qu'ils en ont peur. Voilà. J'avais travaillé sur l'appartenance. L'appartenance, moi, je le prenais comme quelque chose qui nous caractérise. C'est notre façon, en fait, de nous relier à des lieux et à des liens. Mais cette façon-là, elle est un petit peu liée, on va dire, à notre socialisation. Où est-ce qu'on a grandi, dans quel milieu social. Et c'est un petit peu une notion proche du capital, enfin au sens de Bourdieu. Pour moi, l'appartenance, c'était aussi ce qui pouvait discriminer aujourd'hui les gens dans leur capacité à s'approprier les lieux Cette capacité, elle est socialement distribuée. C'est-à-dire que entre quelqu'un qui n'a jamais bougé de, je vais prendre un exemple, de son village, de sa ferme ou de son HLM, qui maîtrise pas bien les langues étrangères, par exemple, la mobilité, on va dire que son appartenance, elle est, je dirais pas, elle est réduite, mais elle est de l'ordre de l'attachement. Et cet attachement, il est à la fois social. Et ça crée aussi de l'affectif, c'est-à-dire je suis attachée à ce lieu. C'est comme les mineurs. Les mineurs, quand on a fermé les dernières mines en France, ils ont pleuré, quoi. Là, c'est toute leur vie, quoi. Et donc, pour moi, l'appartenance, c'était une façon, quand j'ai travaillé là-dessus, de décrire les inégalités sociales qu'on peut avoir dans notre rapport à l'espace, l'espace tant géographique que social, quoi. C'est-à-dire comment on fait avec des lieux. Avec cette mobilité, en plus il y a une injonction aujourd'hui à la mobilité, tu vois. Ça c'est le nouvel esprit du capitalisme, hein. Il faut se défaire de toute attache, il faut être polyvalent, mobile, il faut maîtriser l'anglais, etc., etc. C'est tout à fait dans cette veine-là de défaire aussi les solidarités collectives, parce que tu enjoins les gens à se défaire de toute attache. Et donc, ça devient des individus mobiles qu'on peut déplacer et qu'on peut manipuler d'autant mieux, quoi. Cette appartenance, c'était ça. C'était des formes que je distinguais qui étaient à la fois plus ou moins capables de s'approprier l'espace. Et puis, il n'y a pas qu'une histoire de hiérarchie sociale pyramidale, je dirais. Il y aurait les plus mobiles et puis les moins mobiles, c'est pas tant ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette mobilité et de cet engagement et de cet attachement au lieu. Et donc, du coup, tu as des gens, des formes d'appartenance qui sont de l'ordre de l'engagement-distanciation, où tu peux être très engagé dans des lieux, mais parce que tu les as choisis, parce que tu sais que si tu es amené à devoir les quitter, ben, tu te réengageras ailleurs. Mais en attendant, il faut bien être de quelque part. Donc, tu vas t'engager là où tu es. Mais tu as quand même les moyens de rebondir et s'il le faut, d'aller voir ailleurs. L'attachement, c'est des gens qui n'ont pas cette possibilité-là. Et après, tu as les mobiles de la Jet Society ou du nouvel esprit du capitalisme qui, sont pratiquement dans une forme d'extériorité à tout attachement, à tout lieu, à tout lien, quoi. Tous les lieux et les liens sont substituables. Donc, tu as un rapport au lieu qui est du même type que le rapport au marché, quoi. Qu'est-ce qui est le mieux, quel est le produit le meilleur que je peux acheter. C'est un rapport très stratégique, très instrumental, finalement, au lieu et au lien. C'était un petit peu un regard un peu très sociologique, si tu veux, sur tout ça. Et en fait, en participant au jardin collectif et à cette expérience des lentillères, je me suis aperçue que c'était pas si simple que ça de référer les gens à des catégories. C'est un peu une déformation de sociologue, ça, tu vois. On veut les faire entrer dans les cases, puis après on se dit, ah, mais en fait, où est-ce que je serais, moi? Dans quelle case? Et je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on peut imaginer un engagement sans attachement? Est-ce que moi, tout engagé que je suis, demain, si les bulldozers arrivent sur les lentillères, est-ce que comme ça, je vais pouvoir me dire, bon, ben, j'irai ailleurs et je rebondirai ailleurs? Ben, c'est pas si évident que ça, en fait, on est aussi attaché. C'est vraiment, en fait, ces tensions et cette porosité des frontières entre les catégories, en fait, que j'ai expérimenté un petit peu, finalement, en observant les gens sur le quartier, puis en faisant partie, moi aussi, du coup. Mais il n'en reste que, je pense que il y a un vrai enjeu dans la manipulation du rapport au lieu. À la fois dans la manipulation par le pouvoir, c'est-à-dire cette injonction à la mobilité, cette volonté qu'on n'ait pas d'attache, cette volonté qu'on soit disponible pour tout engagement à tout moment, que ce soit à rebondir, à faire du réseau, à faire de nouveaux projets. Et en même temps, y a dans les luttes actuelles des ZAD, par exemple, enfin sur les différentes ZAD, ce que j'appelle l'empaysanement des luttes urbaines. Il y a comme une réappropriation des vertus de l'enracinement, y compris paysan, face à, je dirais, ce rouleau compresseur du néo-capitalisme, hein, de cette société par projet, quoi. Et une fois que le néo-capitalisme aura réussi à maîtriser notre rapport à l'espace, là, enfin, on serait dans une forme de pouvoir assez total quand même. Notre rapport au lieu, au lien, dans ce qui est plus intime, quoi. Je veux dire, donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à travailler sur ce que ça veut dire que l'appartenance, quoi, et à défendre finalement les formes d'attachement. Et à faire un lien entre ces gens attachés et ces gens engagés. Et voilà, pour moi, c'est un vrai enjeu, quoi, de ce rapprochement entre ceux qui sont là sans l'avoir choisi et qui en sont un peu victimes, et puis ceux qui sont là, qui l'ont choisi, mais qui peuvent avoir les mêmes intérêts à défendre, finalement, par rapport à ceux qui ne sont pas là, hein, mais qui orientent nos vies, quoi. Et ça, c'est un enjeu de lutte politique et sociale, à mon avis, de ce rapprochement. Ben, sur le jardin, il y a des familles très pop, quoi, très populaires, qui n'ont pas le même, je pense, rapport à la politique, qui sont pas du tout de la même culture, comme les Roms, quoi, qui sont là. Et par cette coexistence, ce vivre ensemble, eh ben, on fait des choses ensemble maintenant. Enfin, ils sont présents sur le marché, leurs enfants, ils ont plein de liens avec plein de militants qui vivent sur place. Moi, je pense que l'expérience du jardin, c'est aussi une expérience de création de liens sociaux entre personnes d'horizons très divers, qu'il s'agisse de différences d'âge, de différences de culture, de différences sociales. Parce que aussi, on n'est pas autour d'une table en réunion, on est en train de faire ensemble. Et du coup, ça crée des liens, ça fait tomber des barrières, des peurs, des perceptions, beaucoup plus que des tracts ou le fait effectivement d'être autour d'une table et d'essayer de discuter. On fait pas que, on fait ça aussi, c'est important. Mais justement, il y a aussi un tas de choses qui sont dans l'ordre du faire ensemble, quoi. Faire à manger, cultiver, bricoler, Et ça, ouais, je pense que ça joue. Et puis lutter, puis construire, en fait. Ouais, je pense que tous les gens, au fur et à mesure, se rendent compte qu'ils ont construit quelque chose ensemble et que ce quelque chose, c'est leur lieu de vie ou un lieu qui est important dans leur vie. On crée du commun, quoi. C'est vraiment ça, quoi, l'histoire des communs, quoi, les biens communs. Le commun n'est pas défini en soi par ses caractéristiques. Par exemple, je sais pas, des fois on dit les biens communs, c'est l'eau, c'est l'air, c'est... pas forcément, il n'y a pas de liste. C'est donc, du coup, c'est bien une communauté humaine. Enfin, en même temps, c'est des humains qui construisent ensemble du commun et qui, du coup, ces humains deviennent une communauté. On n'était pas au départ. Enfin, même, on était très, très divers. Mais c'est bien à travers ce commun qu'on construit, qu'on gère ensemble, que se crée une communauté.
Effectivement, aujourd'hui, l'idée générale, c'est de dire l'eau, la terre, le vent, c'est-à-dire, en fait, toutes les choses pour lesquelles personne n'a jamais rien fait. Et du coup, comme ça n'est à personne, c'est un bien commun, c'est-à-dire à personne. Ouais. Et là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est l'inverse, en fait. C'est ce que tout le monde a produit, et du coup, ce qui est à tout le monde, dans un espace donné, un temps donné, quoi. Et ça, c'est l'inverse, parce que ça veut dire qu'on a tous participé à créer le bien commun. Et du coup, ça nécessite d'avoir fait quelque chose ensemble.
Alors, le créer ou le gérer. Parce que c'est vrai que, par exemple, si on parle de la... Et c'est bien l'humanité qui délimite et qui définit à un moment donné comment elle entend faire ensemble, durablement, pour se partager, pour... une ressource et pour coexister dans cette ressource qui va faire le commun. Et moi, je suis un peu contre certains économistes qui, en croyant bien faire, en disant, qui essayent de caractériser précisément ce que c'est qu'un commun. Non, c'est le commun, c'est l'humanité qui le fait, le commun. C'est la communauté, c'est tout.
Voilà, vous pouvez réentendre tout cet entretien avec Yannick sur notre blog tvnr.noblogs.org. Pour finir, on voulait vous lire un tract qu'on pouvait trouver hier sur la manifestation des Lentillères, qui est un appel à monter sur Paris lors de la COP21. Bon, je vous le lis. Cap sur la COP. Début décembre, la COP21 réunit des représentants de 195 États à Paris pour négocier les engagements de leur pays en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette rencontre est souvent présentée comme le sommet de la dernière chance pour l'avenir de la planète. Mais personne ne croit réellement qu'on puisse y prendre des décisions à même d'empêcher le changement climatique. Des convois partent de nombreux lieux en lutte pour s'opposer à cette mascarade et affirmer leur manière de prendre au sérieux la question de l'écologie, en résistant concrètement à la destruction de territoires et de leur vivacité. Depuis le quartier libre des Lentillères, un convoi vélo-voiture part une semaine avant le début du sommet. Il réunira des personnes de l'Est de la France qui luttent contre des projets d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, de Center Park à Poligny, à Chalon-sur-Saône et à Roibon, ou d'industrialisation des forêts dans le Morvan. Nous invitons toutes les personnes en lutte contre l'écoquartier qui menace les Lentillères à se joindre à ce convoi pour marcher sur Paris. Et on trouve ce lien sur le blog qui présente ces convois qui montent sur la COP, marchesurlacop.noblogs.org. On vous remet tous ces liens sur le site. On se retrouve la semaine prochaine. Et on vous quitte en écoutant I Wanna Be Your Dog. C'est ce qu'on pouvait entendre hier soir au Snack Friche sur les Lentillères. Au revoir.
So mailed up, I want you here. In my room, I want you here. Cause now we gonna be face to face. And I lay right down in my favorite place. Cause now I wanna be your dog. Now I wanna be your dog. Come on, now I'm ready to close my eyes. Now I'm ready to close my mind. I'm ready to feel your hands. And I lose my heart on a burning sand. Cause now I wanna be your dog. Cause now I wanna be your dog. Come on.